Souci sur FM+ de valoriser l'action essentielle, majeure des associations basées sur Montpellier dans le contexte héraultais de la région. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Madeleine Johnson, présidente d'une association basée à Montpellier, l'association ISNJ, qui est certes sur Montpellier, mais qui ne s'intéresse pas qu'à Montpellier. Bonjour Madeleine Johnson.
Bonjour Guylaine.
Merci d'être là parmi nous sur FM+. Alors, ISNJ est certes montpelliéraine, mais vous vous intéressez à plein d'autres choses que Montpellier.
Ah oui, c'est vrai. Donc, comme vous avez bien su le dire, ISNJ est une association qui est basée ici à Montpellier, mais sa genèse commence déjà au Cameroun, parce que cette association-là existe déjà au Cameroun depuis 2010.
2010, donc ça fait 8 ans.
Oh oui, ça fait 8 ans quand même. Et sur Montpellier, elle existe depuis 2016.
Bon, ouais. Alors pourquoi Montpellier? Quel est le lien entre le Cameroun et Montpellier? Est-ce que c'est vous le lien, Madeleine?
Ben oui, c'est moi le lien, puisque je... puisque en tant que Camerounaise, mais je vis pour le moment sur Montpellier et comme c'est une association qui me tient à cœur, je la traîne partout où je suis.
Bien. Alors, ISNJ, c'est un terme de la langue du Cameroun?
Oui, ISNJ, qui veut dire tout simplement l'étoile. En l'étoile. La langue tounène parlée par les Banènes, qui sont un peuple, une ethnie sud-camerounaise, qui est située dans la région du centre du Cameroun et dans la région du littoral.
Belle région.
Oui, belle région, et c'est ça le dilemme, et c'est là où se situe le gros problème, parce que étant située à cheval entre deux régions, deux grandes régions camerounaises, où il faut rappeler ici que le Cameroun possède environ 300 différentes langues, c'est-à-dire ethnies, sans associer les dialectes.
Et 300 langues qui sont encore aujourd'hui parlées?
Oui, qui sont toutes parlées. Et les Banènes, le Cameroun compte aujourd'hui environ 22 millions, 25 millions d'habitants, mais les Banènes ne représentent que 60 000. Et dans ce contexte, ils se retrouvent aussi dans ces deux grandes régions où on trouve des peuples beaucoup plus représentés, beaucoup plus représentatifs, même au niveau linguistique. Et c'est à ce niveau que le bât blesse, car les Banènes n'étant pas nombreux, surtout la partie qui se trouve dans la région du littoral, se retrouve donc un peu coincée, écrasée par les langues dominantes. Et c'est à ce niveau qu'a fait l'étincelle dans ma tête. Je me suis dit non.
D'accord. Alors donc, ISNJ, c'est avant tout une association pour valoriser le patrimoine banane du Cameroun.
Justement. C'est-à-dire, pas seulement du Cameroun, c'est-à-dire pour valoriser les savoir-faire traditionnels, le patrimoine immatériel culturel africain en général. Et africain aussi,
en général, est-ce que ça existe, africain en général?
Oui, en général, cela veut dire, c'est pour revenir sur le point particulier du Banène, parce que le problème que vivent les Banènes, ce n'est pas seulement les Banènes, on peut aussi le retrouver même en France, parce que ce qui m'a aussi frappé pour revenir sur Montpellier, c'est qu'il y a aussi des Montpellierains qui ne savent pas, qui ne connaissent pas plein de choses, même dans leur propre région.
C'est grave, on va y remédier, Madeleine. Donc, et vous parlez là de gens, de Camerounais, donc ouais, issus de cette civilisation banène, qui ne connaissent pas eux-mêmes leurs origines.
Oui, parce que étant vraiment coincés entre plusieurs ethnies beaucoup plus fortes, on a toujours tendance à s'identifier aux ethnies beaucoup plus fortes. et des langues beaucoup plus fortes. Et on a toujours tendance à oublier sa propre langue.
Alors forte, quand vous dites forte, vous dites majoritaire?
Oui,
vous dites
majoritaire,
parler,
oui, même plus
niveau,
on est
dans les
fort,
radios, par exemple,
même au niveau, oui, même au niveau des radios, pour prendre un exemple, oui. La minorité qui se retrouve dans la région du littoral, là-bas, on parle plus la langue douala, et même à la radio, c'est parfois le douala, mais jamais on entendra parler du tounen. Et pour vous raconter une anecdote, moi, j'ai fait mes études en Allemagne, et en tant que chercheur biologiste, c'est un de mes professeurs, le professeur Guéat, qui me dit, il me pose la question de savoir, Madeleine, vous êtes d'où? J'ai dit, je suis camerounaise. Mais camerounaise, on sait qu'en Afrique, ça ne suffit pas. J'ai dit, non, je suis camerounaise, parce qu'il est linguiste. J'ai dit, bon, je suis camerounaise, mais je suis sûre que ma langue, on ne la parle pas, elle n'existe pas. Il me dit, non, Madeleine, dis-moi, on ne sait jamais précisément.
Ouais.
Bon, je dis, ah, vraiment, avec un ton très bas, j'ai dit, bon, je suis banane. Il dit, mais tiens, j'ai quelque chose sur les bananes, je n'en revenais pas. Il descend à la médiathèque, il me sort deux grands tomes écrits sur les bananes par Idlet Dugas, je n'en revenais pas. J'ai dit, mais non, on a parlé des bananes, donc les bananes...
Donc c'est important.
Donc c'est important, donc ouais. On a quand même parlé de ce peuple, de ces gens-là. Et j'étais tellement fière, et à partir de ce moment, j'ai dit non. Moi, je vais aller au fond de la chose.
Donc, en 2010.
Donc, nous sommes là en 2001.
2001.
Nous sommes en
D'accord.
2001.
Ouais.
Et à partir de ce moment, j'aime pas trop lire. Mais je peux vous dire que j'ai épluché ces deux tomes en moins d'un mois. Je ne dormais pas, j'étais tellement fière. J'étais tellement fière de lire, de comprendre. En tant qu'enfant au village, je voyais qu'il y avait des groupes sociaux, des familles, mais je ne comprenais pas. Elle a tellement décrit la réalité que je vivais en tant qu'enfant. J'ai dit, mais c'est pas possible.
Mmh. C'était une ethnologue,
cette dame. Une française, une missionnaire qui était envoyée par le DEFAP à l'époque au Cameroun, qui s'est donc intéressée au peuple banane. C'est à partir de ce moment que je me suis dit, mais non, il y a quelque chose. Si déjà, moi, Madeleine, je ne savais pas qu'il y avait des écrits sur les bananes, je dois être pas la seule. Il doit en avoir plusieurs bananes qui ne savent pas. Alors, je peux dire haut et fort, sans me cacher, que les bananes existent. C'est à partir de ce moment...
Le déclic, c'est
mais
fait.
Mais oui, le déclic. Parce qu'en fait, moi, j'étais de base microbiologiste. Et... quand j'ai eu mon DEA microbiologie, j'ai dit, mais non. Après avoir lu les travaux, les deux tomes de Madame Dugas, j'ai constaté qu'elle ne parlait pas des plantes. Il n'y avait rien sur les plantes, il y avait tous les contes.
Rien
tout.
Sur le patrimoine
rien,
du littoral.
Rien, rien, oui, rien, rien. Ouais. Alors je me suis dit, mais non, je vais d'abord
aller... Elle ne pouvait pas tout faire non plus.
Mais oui, alors je me suis dit, et j'étais sur la phase de trouver le thème pour le doctorat, le PhD, alors j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais là maintenant? Je continuais avec mon hydrobiologie et surtout je n'aimais pas mon professeur, il était vraiment raciste à l'époque.
Bon,
ben oui,
c'est dit.
Alors, ouais. Il était vraiment raciste, alors j'étais même allée voir le président de l'université. Il a dit, avec lui, je peux faire arrêter mes études à ce niveau. Et c'est là où mes professeurs ont dit, non Madeleine, avec tout le potentiel que tu as, tu ne peux pas arrêter. Et c'est à cette époque que les différents doyens des filières, hydrobiologie, pharmacie, médecine, linguistes, ils se sont retrouvés à mon insu. Et ils m'ont convoqué, ils ont dit, non Madeleine, nous sommes quatre filières différentes. Propose-nous un thème et on va te suivre dans ce que tu vas choisir. Et il fallait réfléchir, quel thème choisir? Dans quelle direction? Je me suis dit, bon...
Maintenant que vous connaissiez les bananes, il fallait faire
justement,
quelque chose.
Trouver quelque chose qui doit les amener, qui doit accrocher et tout. J'ai dit, bon, je prends les plantes, mais... le botaniste était là, il ne va pas me suivre tout seul. L'hydrobiologiste dit, je ne peux pas, la pharmacie va me suivre et tout. Alors le linguiste a dit, moi je passerai partout. Et à l'époque, à l'université de Hambourg, je dois dire, mon travail, il est un travail pionnier. Parce que c'est avec moi que commence l'ethnobotanique, en fait, à l'université de Hambourg. Et c'est comme ça qu'on forme un thème. On ne savait même pas que c'était l'ethnobotanique à l'époque. On se dit, bon, cherchons à faire quelque chose qui puisse jumeler la botanique, la linguistique,
l'ethnologie
et tout. Et voilà comment en 2002, on arrive au Cameroun. Oh, avec mes professeurs, je leur explique ce qui s'est passé, ce qui m'arrivait.
Tous les quatre sont venus avec vous au Cameroun?
Ils ont envoyé le linguiste avec moi et les autres étaient représentés par les membres de leur filière. On a rencontré le professeur Komenek, écologiste et ethnobotaniste au Cameroun, paix à son âme parce qu'il est décédé l'année dernière. Il m'a dit, mais Madame Johnson, on appelle ça de l'ethnobotanique. Et voilà comment on rentre en Allemagne en 2002, on appelle l'ethnobotanique.
Bravo.
Et voilà comment je ressuscite donc tous ces trucs du baleine, du linguiste. J'ai dit, mais non, j'interpelle tous les baleines que je connaissais. Il dit, mais attendez, réveillez-vous. Mmh. Déjà, voilà comment ça commence. Et il dit, bon, pour pouvoir... amener les gens sur cette idée-là, il faut trouver une certaine plateforme des gens qui partagent le même objectif que moi. Et voilà comment l'idée vient. Ben, créer une association pas comme les autres associations, mais pour but vraiment de s'intéresser au patrimoine, de s'intéresser vraiment à ce savoir traditionnel qui est en perdition, parce que les choses que Madame Dugas racontait, je ne les voyais plus à mon âge d'aujourd'hui, mais en tant qu'enfant, je les voyais encore. J'ai dit, mais il faut se réapproprier de ces choses et les valoriser, surtout aujourd'hui où on ne les voit plus. Et mon expérience ici sur le terrain, comme je disais tantôt, en tant qu'ethnobotaniste, j'ai pu constater, par exemple, au sud du Tchad où j'étais, que c'était le même problème. Alors, je me suis dit, c'est pour ça que j'ai dit en général, un peu en Afrique, et avec ce que je rencontre, les collègues avec qui je discute, que j'échange, le constat est le même.
Alors là, moi aussi, je vais faire des constats. Premier constat, c'est une association qui finalement prend ses racines au cœur de l'université.
Ouais,
ce qui est finalement assez rare dans les associations locales. On trouve plutôt un groupement d'individus comme ça qui émergent au niveau de la société, au niveau de la ville. Là, c'est prend son origine à l'université de Hambourg en Allemagne.
Oui.
Et deuxième constat aussi, c'est que ce que vous disiez, c'était vous partez d'un cas particulier, les bananes au Cameroun, pour vous dire finalement, c'est aussi quelque chose qu'on peut retrouver dans d'autres pays d'Afrique, cette problématique de minorité d'une langue, minorité d'un patrimoine par rapport à quelqu'un, enfin à une situation où il y a un pouvoir autre.
Oui, c'est ça. C'est ça vraiment, et c'est pour ça que je parlais de l'Afrique en général avec mes échanges avec d'autres collègues, les anthropologues qui sont sur le terrain, ou alors les linguistes même, parce que même la langue, vous savez, de par la situation de colonisation qu'ont connu le continent, on a toujours ce problème d'idiome dominant, que le français ou l'anglais qui domine, et du coup les langues maternelles sont un peu laissées de côté. Donc voilà aussi le gros problème, parce que quand on ne parle pas la langue, et plusieurs connaissances traditionnelles sont parfois liées, sont souvent, le plus souvent même liées à la langue. Et ne parlant pas la langue étrangère... La langue étrangère ne connaît pas certaines... On ne trouve pas le vocabulaire pour pouvoir qualifier certaines choses traditionnelles. Et du coup, ne pouvant pas le qualifier en français, on oublie.
On l'exclut.
Oui, on
exclut. Ça n'existe plus.
Ça n'existe plus, puisqu'on ne connaît pas.
Ça
n'a plus...
Plus de dénomination, ça n'existe plus.
Oui, justement, c'est ça. Non. Justement, c'est ça.
Madame Johnson, vous êtes venue ici sur FM+, avec une musique... de Mamangua.
Mamangua.
Mamangua. Oh là là, j'ai vraiment pas l'accent. Il va falloir que je prenne des cours de banane. Mamangua. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte, cette chanson?
Oui, Mamangua, c'est d'abord pour nous vraiment une icône, non seulement une femme, mais une icône banane qui valorise dans cette langue-là. Pour moi, c'est comment on dit, la crème de la crème, parce que elle aurait pu choisir, parce qu'elle chante aussi en langue douala, cette langue dominante dans la région du littoral, et surtout même dans la zone où vivent cette minorité banane, parce qu'elle chante très bien en banane, et le nom même Gaya, c'est la langue douala, mais en tounen qui veut dire la route. Mais pour elle, pour pouvoir valoriser et dire que c'est vrai, le douala nous écrase, Mapengea, mais ça veut dire la route. C'est pour ça qu'elle s'appelle Mamangua, la route. Et pour moi, les paroles de cette chanson, elle dit, bon, parlez de moi, mais je fais ce que je fais. Continuez à parler, déchirez mon nom, comme pour dire, faites tout ce que vous faites, mais moi je continue.
Je continue la route.
La caravane avance et elle est...
Et les chiens à bois.
Les chiens à bois, comme on le dit souvent. Voilà un peu. Et moi, ça me parle beaucoup parce que quand je commence aussi ce projet, on dit, mais ça va nous amener où? Ça va nous, il y a le développement, il y a la globalisation, il y a l'industrialisation. Elle veut nous ramener
à une période passée
et tout. Mais je lui ai dit, mais non. Écoutez, on avance, mais avec le temps, vous verrez les fruits de ce travail.
On écoute, Mama Nguea.
Samuel Eboko, sponsor officiel de Mama Nguea, mon frère à moi. N'écoute pas les bandits, hein. kene ou amie mou de kene. Te pa bi bebi nou doumi si ou amie. Si an akou mango ban a kene ou amie nana monye.
Sur FM+, avec Madeleine Johnson de l'association ISNJ, président de l'association ISNJ que nous avons déjà évoqué dans cette première partie d'émission. Madeleine Johnson nous a proposé une musique, une chanteuse qui chante en douala
et
en banen, Mama Ngea. Alors, Madeleine Johnson, votre association ISNJ, on l'a vu, a pris ses racines à Hambourg en Allemagne et ensuite s'est développée au Cameroun et maintenant est à Montpellier. Ouais. Alors, l'objectif de cette association, on l'a vu, c'était patrimoine linguistique, mais aussi patrimoine culturel et naturel. Ouais. Alors, comment est-ce que vous faites pour allier tous ces aspects-là de cette civilisation banane?
Oui, comme je disais tantôt, les objectifs de notre association, c'est de sauvegarder le patrimoine culturel, naturel, contribuer au développement d'une éducation à la protection de l'environnement et du patrimoine culturel, contribuer à la valorisation des savoir-faire traditionnels et à la promotion...
Alors, comment est-ce qu'on fait pour valoriser les savoir-faire traditionnels dans votre association ISNJ, Madeleine Johnson?
Oui.
Concrètement, comment ça se passe pour valoriser ça?
Concrètement, il faut documenter ces savoir-faire traditionnels. Il faut porter à la connaissance de tous ces savoir-faire traditionnels.
Par exemple, savoir-faire, ça va être quoi? Du tissage? Ça va être de la cuisine?
Les savoir-faire, c'est d'abord aussi la connaissance. La connaissance et la plupart des connaissances africaines en général, alors en particulier celles des bananes, s'articulent autour de la langue. C'est-à-dire la langue, lorsqu'on connaît la langue, à partir de la langue, on peut comprendre ce que les ancêtres, ce que les pères ont voulu dire sur une situation bien précise ou alors sur quelque chose. Moi, en tant que botaniste ou alors ethnobotaniste, toutes les connaissances des plantes sont aussi liées avec celles de la langue.
Alors, est-ce que ces plantes-là, justement, sur lesquelles vous travaillez, vous l'avez dit, vous êtes botaniste de formation même. Plus que ça, microbiologiste, botaniste,
ouais.
Vous avez vraiment de vraies compétences dans ces domaines-là. Comment est-ce que toutes ces plantes sont répertoriées? Est-ce que vous les avez transcrites dans une langue banane et autres? Comment vous avez travaillé ce patrimoine-là?
Oui, toutes les plantes, toutes pas. Parce que sinon, la recherche s'arrêterait. J'ai quand même fait un effort de répertorier les plantes que les bananes utilisent dans les domaines médicinaux, rituels, alimentaires et disons celles qu'ils utilisent dans leur train-train journalier. Et le livre a été publié en 2013, mais ce travail était fait en allemand.
Donc du banane à l'allemand.
Donc j'ai écrit tout ce travail en allemand, mais les noms des plantes, d'habitude, on les donne en latin.
C'est universel.
Et on essaye de donner le nom en français lorsqu'on l'a ou allons en anglais. Et moi, j'ai ajouté du tounen. Donc, le tounen, c'est la langue parlée par les bananes. Donc, j'ai donné le nom en tounen, le nom scientifique, le nom en français ou en anglais lorsque je l'avais. Donc, voilà aussi une façon de valoriser ce patrimoine, parce que lorsqu'on connaît déjà le nom de quelque chose...
Absolument. Et ça existe.
Oui, et ça existe.
Aux yeux de tous les scientifiques.
Oui, aux yeux de tous les scientifiques, il y a déjà ce document-là qui existe. Et en mars dernier, 2017, j'ai publié un livre, Les rites, les plantes et les rites sacrificiels chez les bananes, dont j'ai essayé de répertorier aussi toutes les plantes que les bananes utilisent dans les rites sacrificiels et la plante primordiale qui est le nenyangé, nembak ou encore le crinum. Le terme, le crinum zelanicum, le nom scientifique de la plante. Donc pour moi, voilà une façon de valoriser ces savoir-faire traditionnels et en écrivant, en mettant en relief le nom en cette langue-là qui va faire tic dans la tête. Mais ce nom-là, c'est quelle langue? On va dire, ben, c'est le Tounen. Et comme je disais plus haut, c'est ce qui m'a manqué dans le travail de Madame Dugas, qui a parlé pas. Mais je disais, mais non, il faut qu'on le complète un peu. La continuité, comme elle-même, elle a souhaité, qu'elle espère que son travail va éveiller quelque chose en les bananes qui vont continuer ce qu'elle a juste commencé, parce que ce n'est qu'une fondation qu'elle a commencé.
Que vous continuez finalement,
et
vous, moi, Madeleine
oui,
Johnson.
Oui, j'apporte mon petit ma petite pierre à cet édifice, et que les autres pourront aussi continuer. Pourquoi pas? Parce que moi, en tant que botaniste, je ne touche pas le domaine faunique, donc des plantes zoologiques. Il y aura aussi un autre qui va s'occuper uniquement des animaux, des insectes. Donc moi, je regarde juste le côté des plantes. Oui, c'est ça.
Est-ce que vous sentez que l'État du Cameroun vous suit dans cette démarche?
Oui. L'État du Cameroun me suit dans cette démarche depuis 2002. Depuis 2002, je suis en contact avec le ministère des Arts et de la Culture, qui a vraiment adhéré à ce projet dès que je leur ai soumis le projet. Et la communauté urbaine aussi de Ndjikinimé, qui est la capitale de l'arrondissement de Ndjikinimé, où vivent l'autre partie des bananes, puisque je vous ai dit, il y a une partie dans la région du littoral et l'autre dans la région du centre. Donc,
alors, ce sont deux régions qui communiquent facilement. Vous vous connaissez entre vous. Comment est-ce que ça se passe entre ces deux régions?
Nous connaissons entre nous. Ces deux régions, malgré le fait qu'administrativement, elles soient séparées, nous avons la chance que nous ne sommes séparés par aucune autre ethnie qui nous sert de tampon. Nous sommes séparés juste par vraiment la forêt, la vraie forêt
qui n'est pas facile à traverser.
Qui n'est pas du tout facile à traverser pour le moment. Et on espère, avec la politique gouvernementale qui a été annoncée il y a déjà quelques années, qu'on pourra construire une route pour pouvoir relier l'arrondissement de Yingui, parce que c'est comme ça que s'appelle l'arrondissement où se situe l'autre partie, ou alors la majorité des bananes de l'autre côté, pour que ceux de la région du centre, dont ceux qui sont dans l'arrondissement de Ndjikinimé, qui arrondissement de Nitoukou, arrondissement de Makenene, puissent être en contact direct avec ceux de l'arrondissement de Yingui. Mais il y a, comme je disais tantôt, il y a, de par sa richesse linguistique, on reconnaît facilement les ressortissants de la région du centre et les ressortissants de la région du littoral. Parce que même ici, on voit quand un Montpellierain parle le français, il est différent à un Parisien.
Donc, c'est ça, là aussi, il y a une accentuation de la langue.
Oui, il y a justement ça. Mais c'est la même langue, c'est le Tounen, mais on se reconnaît comme ça. Mais moi, l'association prône vraiment pour la bananité, parce que c'est un terme que vraiment, j'insiste et je revendique la bananité. Je ne veux pas qu'on me parle des ressortissants de la région du littoral, les ressortissants de la région du centre. Pour moi, nous tous, nous sommes un, nous sommes bananes tous. C'est tout ce qui compte.
Alors, j'entends bien ce que vous faites quand vous êtes au Cameroun, dans cette région du banane. Comment est-ce que vous travaillez quand vous êtes à Montpellier? Quelles sont vos actions?
Ici, à Montpellier, l'association organise des conférences où nous parlons de ce peuple banane. Et nous organisons aussi des soirées culturelles pour faire découvrir la culture banane aux Montpellierains.
Donc, il y a beaucoup de Montpellierains qui sont bananes?
Ici, il n'y en a pas encore assez. Il n'y en a pas encore assez, à ma connaissance.
Est-ce qu'on peut obtenir la nationalité banane?
Pourquoi pas? Cela nous ferait très plaisir d'avoir la nationalité banane. De cela veut dire la nationalité camerounaise. La nationalité camerounaise par alliance, pourquoi pas, en épousant un banane ou alors une banane, on devient automatiquement banane. Donc voilà comment on peut devenir banane. Donc pour dire, lorsqu'on nous organise dans des conférences, les gens viennent et les mécènes sont là, tout le monde est là, tout le public, les enfants, les grandes personnes. Et c'est non seulement, ce sont des moments de découverte vraiment d'une culture, des choses qui n'existent parfois nulle part. nulle part, mais chez les bananes, à ma grande surprise, les gens me disent, ben waouh, on ne savait pas que des choses comme ça existaient, mais quand même. Donc c'est toujours un plaisir de voir plein de gens qui viennent aux conférences et parfois avec pour découvrir des savoir-faire culinaires de ce côté du Cameroun. Et voilà. Donc, à partir de ces activités, voilà comment les entrées ne sont pas payantes, mais comment on appelle ça ?
Les échanges.
Les échanges sont enrichissants, la convivialité. Et ensuite, bon, selon comment la personne a été accrochée, peut bien dire, voilà ce que nous pouvons apporter pour ta recherche, voilà ce que nous pouvons apporter à ton projet. Parce que,
alors, le grand projet, qu'est-ce
ouais,
que c'est ?
Ouais, le grand projet, c'est celui de la construction du musée d'histoire naturelle des bananes. Alors dans l'arrondissement de Ndikinimeke.
Vous le mettriez de quel côté de la forêt équatoriale ?
Non, du côté du centre. Parce que, pas parce que celle du littoral est moins importante, non. Tout simplement parce que c'est la communauté rurale, la commune rurale d'Ndikinimeke qui a été la première à nous proposer vraiment du terrain pour pouvoir bâtir ce musée-là.
Vous le prévoyez dans quel délai ?
Dans quel délai, ça dépend du nerf de la guerre. Ça dépend maintenant du financement. Ça dépend vraiment des moyens. Mais sinon, c'est un objectif que nous nous sommes fixés. Pour 5 ans, on s'est dit, dès qu'on va commencer, on aura 5 ans pour cela. Mais comme je vous expliquais, c'est aussi un travail de recherche. Parce qu'il faut aller sur le terrain, expliquer, sensibiliser les gens, leur expliquer le bien fondé de pouvoir sauvegarder ces choses quelque part. Et ce quelque part ne peut être qu'un musée où ces choses seront bien valorisées, seront bien visitées par tous ceux qui veulent connaître le peuple banane, visitées par les amoureux de la culture étrangère, visitées par les touristes, pourquoi pas, parce que c'est une zone, la région banane est une zone très 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 agréable à vivre parce que on a cette chance là de se retrouver un peu aussi à cheval entre la forêt et les grass fields. Cela veut dire on part, on retrouve toutes les catégories de végétation. On a la forêt, on a la savane, on a la mangrove, on a tous ces niveaux-là où chacun peut trouver son compte sans, ça dit, il fait beau vivre. Il ne fait pas chaud, la température est ambiante. Lorsqu'il fait très, très chaud, on se retrouve parfois à 30 maximum et on aussi toujours 24, 26.
Le paradis sur terre.
C'est le paradis sur terre.
Bon, merci Madeleine de nous avoir fait rêver. Merci pour être venue nous parler de l'association ISNJ. Oui. Et puis, on se reverra. Vous reviendrez nous donner des nouvelles.
Volontiers, volontiers. Bon. Parce que déjà, en avril le prochain, nous organisons donc une conférence sur les rites sacrificiels pratiqués par les bananes.
Alors, vous reviendrez nous parler de tout ça. Merci Madeleine.
C'est moi.